Alors, comment est-ce qu'on devient un complotiste? C'est un article qui est publié dans le Journal de Montréal de ce matin. Je cherche le nom du journaliste. Je vais vous le rapporter dans un instant. Pour en discuter, Jonathan Jarry. C'est un communicateur scientifique de l'Organisation pour la science et la société à l'Université McGill. Bonjour, Monsieur Jarry.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on devient complotiste?
Comment est-ce qu'on devient complotiste? Ouais. Je ne sais pas s'il y a une réponse facile à tout ça. Quand on regarde l'adhérence aux théories du complot à travers le temps, c'est relativement stable, mais il y a des pics lorsqu'il y a des gros bouleversements sociaux. Et c'est ce qu'on voit présentement. Je veux dire, il y a des gros changements dans la société. On a une pandémie au niveau mondial. Ça implique des changements au niveau des commerces et des gouvernements, tout ça. Et donc, ça crée beaucoup d'anxiété pour les gens.
Oui.
Et les théories du complot, ben, elles existent, elles sont là pour rassurer les gens, pour donner des histoires qui sont un peu simplifiées, pour pointer du doigt aussi à des gens qu'on aimerait qu'ils soient responsables de tout ça, pour un peu faire du sens de tout ça, là.
Donner un sens à ce qui semble un peu insensé ou ce qui semble incompréhensible. Mais j'accroche un petit peu sur le mot rassurer. Parce qu'en même temps, les explications auxquelles ils en viennent, par exemple que ça fait partie d'un grand complot pour contrôler les populations mondiales et tout ça, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Là. Vous comprenez?
C'est rassurant. Oui, je comprends. Et c'est pas vrai non plus. Mais c'est rassurant dans le sens qu'on trouve une communauté qui pense un peu comme nous, qui partage nos insécurités et on trace une ligne entre, disons, les bons et les méchants. Parce que quand on parle d'une pandémie comme ça, le virus, il est difficile à blâmer. C'est quelque chose qui existe, qui n'a pas d'intelligence, qui existe dans un réservoir animal, qui mute de manière constante. Et à un moment donné, il mute d'une façon aléatoire qui fait en sorte qu'il peut infecter les êtres humains. C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, c'est pas quelque chose qu'on peut blâmer directement. Alors que quand on nous lance que c'est Bill Gates qui est derrière tout ça, ça a été créé dans un laboratoire, c'est une arme biologique. Ah, là, on a une histoire qui est facile à suivre et on a quelqu'un à blâmer pour ça.
Les gens, évidemment, m'écrivent, puis il y en a qui se sentent un peu visés par l'entrevue, Jonathan Jarry, qui disent ben oui, on sait bien, dès qu'on n'adhère pas aux thèses officielles, dès qu'on n'adhère pas à votre endoctrinement, on devient des théoriciens du complot. Il faut faire une distinction, je pense, entre les théoriciens du complot et les personnes qui vont être critiques des stratégies gouvernementales, par exemple. C'est pas parce que tu es critique des stratégies gouvernementales que tu deviens un complotiste.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a définitivement place à la critique. Moi, c'est ce que je fais en tant que communicateur scientifique. Il y a beaucoup d'études que je vais critiquer publiquement pour ne pas être valide d'un point de vue méthodologique. Donc oui, effectivement, il y a place à la critique de la science, place à la critique de la réponse du gouvernement, des agences de santé publique. Effectivement, on a besoin d'une critique qui est saine. Et par contre, ce qui se passe souvent dans la tête des complotistes, c'est qu'on va donner l'apparence d'une critique saine, mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est vraiment une méfiance généralisée envers les autorités.
À partir de quand est-ce qu'on traverse la ligne, à votre avis? À partir de quand est-ce qu'on devient, on passe de citoyen critique à adepte du complot?
J'ai pas de bonne réponse à ça et moi je mets ça sur un spectre. Je sais pas que c'est vraiment une ligne là qui existe. Comme pour ce qui est de la science et de la pseudo-science, il n'y a pas vraiment de ligne entre les deux, c'est vraiment un spectre. Et donc, il y a des gens qui vont se placer un peu n'importe où sur ce spectre-là, qui vont déplacer où est-ce qu'ils sont au fil du temps. Donc, il y a des gens qui sont vraiment à l'extrême de ce spectre-là. Je pense que c'est très, très, très difficile de rejoindre ces gens-là. Mais par contre, il reste beaucoup de gens du public qui sont un peu au milieu, qui sont confus par ça, parce qu'on voit beaucoup de mésinformation qui est véhiculée. On a par exemple des brochures qui circulent à Montréal, qui lancent beaucoup de mésinformations au niveau du port du masque, au niveau de la COVID-19, et donc ça crée beaucoup de confusion. Je pense que ces gens-là, on peut les aider à faire du sens de tout ça.
Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, à votre avis, en terminant, Jonathan Jarry? Est-ce qu'il y a plus d'adeptes des complots de tous les genres, là? Je parle pas juste complots par rapport à la COVID, là, mais des complots en général, là. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui croient à ça qu'avant?
J'ai pas de données là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que justement, en période de grands bouleversements sociaux, les gens qui adhèrent à ces théories-là, habituellement, on voit vraiment une augmentation. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très facile pour ces gens-là de se retrouver dans des groupes Facebook, par exemple, pour partager ça. Et la mésinformation circule beaucoup mieux, malheureusement, qu'avant. Et donc, ça va rejoindre encore beaucoup plus de gens.
Très bien. Jonathan Jarry, communicateur scientifique, merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
À la prochaine. Luc Lavoie, comment qu'il va? Comment
bonjour, qu'il... Bernard.
Très bien. Je suis content de te retrouver.
Moi aussi.
Bon, alors, réaction à cette entrevue, si tu souhaites, mais aussi à la première partie de l'émission, que ce soit l'entrevue avec Guy Lapointe là, par rapport aux menaces proférées contre le premier ministre Legault ou le nouveau système de code des couleurs de Christian Dubé.
Alors, commençons par l'entrevue. Mm-hmm. J'invite les gens à lire la chronique de notre collègue Patrick Lagacé aujourd'hui qui parle précisément de ça. Des théories de complot, puis les anti-masques, puis tout ça. Et il soulignait une chose, c'est que, et je pense que c'est connu, mais quand même, on ose à peine le dire, on a peur d'avoir l'air des snobs, mais moins les gens sont instruits, plus ils croient à ces affaires-là. Et moi, ce que je note, Bernard, c'est sur ma page Facebook, j'ai quand même plus que 30 000 abonnés, et je vois des gens là qui reviennent à intervalles réguliers, qui sont pas violents, mais qui adhèrent à n'importe quoi. Et qu'ont-ils en commun? N'importe, quand je dis n'importe quoi, n'importe quelle théorie du 5G, puis de toutes ces conneries-là, là, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Une quasi-incapacité d'écrire, à la limite de l'analphabétisme. Alors, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cela. Je ne comprends pas...
Donc, il y aurait un lien entre probabilité que tu adhères aux thèses complotistes et éducation, c'est ça que tu dis?
Ouais, exactement, oui, exactement. Et dans ce sens-là, je demande aux gens qui se trouvent dans cette espèce de zone grise de se dire une chose. Les spécialistes qui vous parlent, les nôtres, là, si on veut vraiment le sentir en famille, les Québécois là, qui sont des scientifiques,
ouais.
Ils ont étudié 10 ans, 12 ans à l'université dans ce domaine-là, dans des centres de recherche extraordinaires dans le monde. Écoutez-les donc. Arrêtez donc ces folies-là. Les gens se racontent des histoires entre eux. J'en lis parfois. Et on m'envoie aussi des liens vers des YouTube. Là. Et là, t'as des espèces de personnages français, belges, canadiens, n'importe quoi, qui racontent des histoires, Bernard. Il y en a un là que j'ai reçu hier, c'était l'Écouvillon.
Oui, okay. le petit Q-tip.
Ouais.
Là,
la raison pour laquelle il est si long, puis là, il y a même des images à l'appui, tout ça, c'est qu'on veut aller dans le fond de votre cerveau où on sait que se trouve l'endroit où on va mettre la puce qui va servir à vous contrôler à l'échelle mondiale.
T'es pas sérieux.
Ah. Et la personne qui présentait ça se présentait aussi, c'est un Québécois, se présentait comme un docteur en anthropologie. J'en sais pas plus, je sais juste que j'écoutais ça. Puis la personne qui m'avait envoyé ça, et j'avais dû décoder ce qu'il avait écrit parce que c'était incompréhensible ou presque, était très inquiète. Elle avait lu ça, puis elle disait, « Monsieur Lavoie, j'admire votre sagesse. » T'en dis pas autant, Bernard. « Monsieur Lavoie, j'admire votre sagesse. Ouais. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que je dois penser? Parce que j'ai très peur en regardant ça. » Puis là, tu regardes cette histoire-là, un écouvillon qui va dans le fond du cerveau. Mon Dieu Seigneur, mais comment ça se fait qu'on en vient à ça,
Bernard? Mais c'est vrai que celle-là, je l'avais pas entendue encore. Là. D'ailleurs, il y en a un qui m'écrit, il dit « Q-tips comme dans QAnon ».
Exactement.
Ah, tu vois? Non, mais je veux juste revenir sur ton commentaire. Parce que souvent, j'ai dit, moi, sur les ondes puis ailleurs, qu'il fallait pas faire un lien entre l'éducation puis le jugement. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes sur mon île natale, à l'île du Pas, des cultivateurs, des ouvriers qui avaient pas beaucoup d'éducation, mais qui avaient un maudit bon jugement.
C'est clair.
Tu comprends?
Je suis complètement d'accord
puis,
avec toi.
Puis on en connaît tous des gens qui ont eu beaucoup d'éducation puis qui n'avaient pas de jugement puis ils n'en ont pas de jugement.
Souviens-toi de la phrase de Duplessis. L'éducation, c'est comme la boisson, il y en a qui portent pas ça.
C'est ça. Mais c'est pas parce que tu portes pas l'éducation que tu peux pas avoir un sacré bon jugement.
Et donc,
tu as raison.
C'est important ce que tu viens de dire, Bernard. Je veux pas que les gens pensent que si t'es mal instruit, je pense que t'es un imbécile. C'est pas ça du tout.
Je sais. Mais c'est important qu'on le précise.
On peut avoir une intelligence sociale exceptionnelle sans avoir des grands diplômes universitaires. Ça, c'est bien évident.
Tout à fait.
Mais j'aimerais que les gens décrochent un peu, Bernard. Ça me fait de la peine. Écoute, c'est comme ma famille, le Québec, ça, là. Je regarde ça. Je dis, mais l'autre fois, j'étais assis dans un restaurant au comptoir. J'attendais quelque chose. J'étais venu chercher de la pizza, je pense. Puis il y avait deux gars à côté de moi, là, qui avaient l'air des gens très bien. OK? Puis il était en train de se raconter les patentes du complot. Puis à un moment donné, j'étais obligé d'intervenir puis dit, écoutez, il avait l'air des gens gentils. Arrêtez-vous! C'est pas drôle ce que vous dites! Mais ils se croyaient.
Ils ont dû manger le pizza de travers.
Un peu.
Attention, il y en a un moment donné qui va prendre une pointe de pizza puis qui va te la...
Peut-être que c'est déjà fait, puis j'ai pas osé te le dire. Bernard, c'est un grand sage. Tu restes, un grand sage.
Tu restes à distance, tu sais bien même. Hey, on se reparle en deuxième heure.
Tantôt.